La matinale de 19h.
Et bah, c'est une émission qui parle de société,
de politique,
culture alternative.
On va aussi parler de sport, de gens dans la rue.
Et l'actualité en règle générale.
On va peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne.
Et voilà, il y aura des invités.
Des sociologues, des invités chercheurs.
Les invités ne diront que des choses intelligentes.
Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais...
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Ils sont arrivés en tête du premier tour des élections régionales avec près de 28% des suffrages exprimés. Ah, le Front National, ce parti fondé par Papy Jean-Marie. Enlevez l'œil de verre et les lunettes has-been et laissez place à deux autres blondes potentiellement sorties d'une télé-réalité, qui en sont les égéries aujourd'hui. Vous les reconnaissez ? Je parle bien sûr de Marine et Marion. Le parti frontiste a attiré par ses supercheries de nombreux Français le 6 décembre dernier. L'immigration représente un coût important pour la communauté nationale, ne cesse de rabâcher Marine. Mais concrètement, que ferait-elle sans ses électeurs ? Son premier grand gain budgétaire phare, elle le leur devrait. Puisqu'elle compte bien économiser 40,8 milliards d'euros en 5 ans derrière leur dos. L'autre argument majeur mis en avant par Tati, l'immigration ferait baisser les salaires des Français. Faux ? Selon une étude, une croissance de 10% de l'immigration entraînerait une hausse de l'ordre de 3% des salaires des natifs. Une autre proposition du FN qui risque d'être en fort désaccord avec le pôle égalité femmes-hommes de Paris Diderot, c'est aussi de garder les femmes au foyer pour libérer des emplois et voter non à l'avancée du droit des femmes, non à l'abolition du système prostitutionnel et non encore à la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et parmi les mesures les plus extrémistes et les plus folles, elle veut remettre en cause le droit d'asile, mettre fin à la libre circulation au sein de l'Union européenne, interdire les régularités des sans-papiers, les expulser systématiquement et empêcher les manifestations de clandestins ou de soutien clandestin, rétablir la double peine, supprimer l'aide médicale d'État, réduire la durée des cartes de séjour, revenir sur le droit du sol, réformer le code de la nationalité et supprimer le financement des plannings familiaux. Je vous fais peur, hein, avouez-le. Le retour au début du 19e siècle ne vous tente pas ? Ne vous inquiétez pas, ce dimanche, les Français ont été rappelés pour rehausser l'honneur de la République après un tel scandale pour un second tour. Et le parti à la flamme tricolore a remporté autant de régions que moi à l'école. On appelle ça un zéro pointé. Rue des Chèques, n'est-ce pas ?
La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
Alassane, qui est présent avec nous aujourd'hui, nous parlera sport et études par la pratique de la technique douce. À ses côtés, nous accueillerons Jérômine et Hugo qui auront quelques questions à poser à notre invité du jour, Marco Hazan, fondateur de Humans of Paris. Alexandre, lui, nous fera voyager via ses expériences musicales. Mathilde nous informera un peu plus sur les stages. Et enfin, en fin d'émission, Marianne nous rejoindra pour nous parler d'étudiants étrangers et leur vision de Paris. Il est 17h47 sur le 93.9 et jusqu'à 18h30, nous sommes ensemble pour la matinale. Et nous commençons par Alassane qui, je le parie, va vous faire transpirer mais tout en douceur de votre volant. Alassane, bonsoir.
Bonsoir Dunia, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pratique de la technique douce, un sport assez particulier à l'Université Paris Diderot.
Mais... c'est quoi l'objectif de ce sport si particulier ?
Oui, Dunia, il consiste à pouvoir prendre conscience du fonctionnement de son corps, de pratiquer une activité physique adaptée à chaque type d'étudiant. Dunia, comme on le sait déjà, tous les corps ne supportent pas certains efforts intenses. Ainsi, avec la technique douce, toutes les personnes sont aptes. Chacun y trouvera son compte. Il n'y a pas de souci de normes ni de performances à atteindre. Selon le service de sport de l'université, ce que font les étudiants pendant le cours peut être exercé ailleurs, par exemple à la maison, sans poser de problème. On le dit souvent, un corps sain dans un esprit sain, oui, mais un corps trop fatigué avec des activités physiques intenses ne favorise pas certainement la sainteté de l'esprit dans le milieu universitaire. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup d'aspects négatifs, tels que le manque de confiance, le stress au niveau des études. Dans ce milieu trop stressant, faire ce sport de la technique douce peut nous permettre de lutter contre ce mal.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
Nous continuons avec Marco Hazan, un jeune étudiant en droit fondateur du site Humans of Paris, qui regroupe des portraits pris sur le vif de Parisiens dans la rue, accompagnés de leurs histoires. Il s'est inspiré du site Humans of New York, créé par Brandon Stanton en 2010. Deux ans plus tard, il crée sa page Facebook Humans of Paris, avant de sortir son tout premier livre. Marco, bonsoir. Je remarque Jérôme et Hugo tout sourire qui se tâtent de te poser quelques questions.
Bonsoir. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir Marco. Alors ce qu'on voulait te demander déjà, c'est est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ce que c'est Humans of Paris pour nos auditeurs, s'il te plaît.
Alors bonjour à tous. Humans of Paris, c'est un projet qui consiste à faire découvrir la ville de Paris à travers des portraits et des histoires d'individus qui se promènent dans la ville. C'est-à-dire que tous les jours, avec mon appareil photo, je me balade dans les rues de Paris, entre deux cours, le dimanche, le week-end. Je vais voir des inconnus qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas, et je les aborde, je leur pose des questions. Quel a été le meilleur moment de votre vie, le pire moment, un moment qui vous a marqué. Et tous les jours, je publie ce témoignage et ce portrait sur ma page Facebook Humans of Paris et les divers réseaux sociaux. Et petit à petit, ça crée une communauté de plus de 260 000 personnes aujourd'hui, avec des interactions, des dialogues, des échanges. Et c'est quelque chose d'intéressant de se concentrer sur l'humain aujourd'hui.
D'accord. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, Marco, c'est comment ça s'est passé la première fois que tu es allé dans la rue pour prendre des photos. Comment est-ce que tu t'y es pris et est-ce que tu as eu des bons retours tout de suite?
Alors j'ai eu mon premier appareil photo vers 14 ans, pour parler un peu de comment le projet a vu le jour. Et je commençais à prendre des portraits. Je suis quelqu'un qui adore parler aux gens, etc. Donc j'ai commencé. En fait, la photo est un prétexte pour moi de dialoguer avec des inconnus. Et donc j'ai pu le faire grâce à la photo. Petit à petit, j'ai commencé à prendre des portraits. Et quand, effectivement, j'ai vu le projet Humans of New York, qui était un projet qui m'avait beaucoup séduit, parce que je commençais déjà à prendre des photos et je voulais concrétiser cela. Et j'ai trouvé que c'était un concept intéressant avec le mot humain, qui est pour moi un mot primordial. Donc j'ai créé la page Facebook avec un ami à moi, qui aujourd'hui, malheureusement, ne fait plus partie du projet parce qu'il ne se trouve plus à Paris. Et donc j'ai commencé à mettre un portrait. Et en une nuit, on a eu 1000 personnes sur la page Facebook. Et donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé, qui m'a donné envie de continuer. Et donc, effectivement, j'ai continué dans cette perspective d'aller vers l'autre. Et aujourd'hui, ça continue.
Ah d'accord, 1000 personnes quand même, c'est impressionnant. Hein. Mais du coup, la première fois que tu y es allé, est-ce que tu as eu tout de suite le contact facile vu que tu avais déjà l'habitude? Ou est-ce que c'était un peu plus dur? Est-ce qu'il y a certaines personnes vers lesquelles tu te tournes parce qu'elles ont l'air plus accessibles?
Alors, discuter avec un inconnu, c'est pas quelque chose qui me pose problème. Au contraire, c'est pour moi une découverte de l'autre. Je pense que dans notre société, le dialogue, c'est quelque chose de primordial. Et malheureusement, il y a des individus qui discutent pas entre eux. Et donc, effectivement, je suis vraiment dans une optique d'aller dialoguer avec l'autre. Et donc, c'était vraiment quelque chose que j'appréhendais d'une manière positive. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a posé problème que de dialoguer avec des personnes que je connaissais pas au début. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, après 2000 portraits, 2000 histoires, 2000 rencontres, 2000 dialogues, on sort toujours plus riche en dialoguant avec l'autre.
D'accord.
Mais alors, Paris, c'est une grande ville. Quand tu pars dans la rue, tu pars le week-end, comment est-ce que tu choisis les gens à qui tu vas parler? Comment ça se passe?
Alors, effectivement, lorsque j'ai envie de prendre des portraits pour ma page et que j'ai du temps, parce que, comme vous savez, je suis étudiant en droit aussi à la Sorbonne, donc j'essaie de concilier, bien évidemment, ces deux projets. Donc l'idée, c'est d'aller dans un endroit. Je me dis, aujourd'hui, je vais aller dans le 18e, aujourd'hui, je vais aller dans le 17e. Je choisis le quartier, l'endroit, et là, je me promène, et j'essaie de trouver une personne qui a le temps, parce que le but, c'est de pouvoir avoir une discussion de fond avec cette personne, parce qu'en plus du portrait, en plus d'un projet photographique, c'est aussi un projet humain. Et donc l'idée, c'est de concilier la photographie et ses valeurs humaines, et de pouvoir effectivement avoir une histoire intéressante. Donc je me mets dans l'endroit et j'essaie de trouver une personne qui pourra me fournir une histoire intéressante.
Alors tu parles d'histoire intéressante, c'est des gens que tu connais pas, donc à chaque fois j'imagine que tu dois être surpris. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples d'histoires qui t'ont vraiment marqué parce qu'elles ont été drôles ou insolites
ou émouvantes?
Oui. Bah alors, il y a une histoire à chaque fois qu'on pose cette question qui me revient, parce que c'est vraiment une histoire qui me marque et à laquelle je pense tous les jours. Je me promenais, donc du coup, cette fois-ci, c'était devant la pyramide du Louvre, et c'était pour les portraits de mon livre Humans of Paris. Et donc, j'ai vu une personne, un handicapé moteur, avec une autre personne qui poussait qui l'aidait à avancer. Et donc, je suis allé les voir et je leur ai dit comment vous... Je leur ai expliqué le projet Men of Paris, je leur ai présenté le projet, je leur ai demandé comment vous vous êtes rencontrés. Et la dame m'a dit qu'elle était infirmière et qu'elle justement elle aidait les handicapés moteurs. Elle se promenait avec un chien dont la mission est aussi d'aider les handicapés moteurs. Donc c'est une histoire un peu incroyable. Et elle se promenait avec ce chien dans un parc quand il s'est dirigé vers l'handicapé moteur. Elle l'a naturellement suivi. Ils ont engagé la discussion. Et aujourd'hui, à l'époque où je les ai pris, ça faisait 2 ans qu'ils étaient ensemble. Donc c'est effectivement intéressant à travers un dialogue comme ça, un peu un dialogue qui n'était pas prévu. Je suis allé les voir et j'ai pu trouver cette histoire qui était intéressante et passionnante.
D'accord. Et nous marquons une courte pause, le temps d'une chanson, et nous nous retrouvons dans quelques minutes. Restez avec nous.
Oh, time.
Et c'était Wait du groupe M83. Nous continuons l'émission et reprenons avec les petites questions de Jérômine et Hugo avec notre invité du jour, Marco Hazan de Humans of Paris.
Alors Marco, je voulais savoir aussi quelque chose. Je suis allée faire un tour sur la page Facebook donc de Humans of Paris, qui est bilingue. Elle est en français et en anglais. Je vous invite à aller la regarder sur Facebook. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est un moyen pour toi de toucher un petit peu des personnes à l'étranger? Et je me suis dit qu'aussi, les Parisiens ont quand même une mauvaise image, une mauvaise réputation, on peut le dire, à l'étranger. Est-ce que c'est un peu un moyen de contrebalancer ça en montrant un petit peu des morceaux de vie des Parisiens?
Alors effectivement, sur le premier point, concernant le fait que la page soit bilingue, c'est parce que là, déjà quand on regarde les chiffres aujourd'hui, j'ai 160 000 fans anglo-saxon, donc dans tous les pays qui parlent anglais, et 40 000 fans en France. Donc je suis obligé en quelque sorte de satisfaire cette communauté en diffusant un contenu qu'ils peuvent comprendre. Donc effectivement, on a cette page qui est en deux langues, en français et en anglais, pour pouvoir satisfaire un maximum de personnes et surtout pour pouvoir diffuser au maximum de personnes ces histoires humaines, ces histoires relationnelles. Et donc sur la question des Parisiens, c'est une question intéressante. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des préjugés sur les Parisiens. Préjugés, ça vient du latin préjudicare, qui veut dire qu'on va juger quelqu'un avant de le connaître, en fait. Et les personnes, ils jugent les Parisiens sans les connaître. Et à travers mon projet, effectivement, je vais à la rencontre de ces Parisiens. J'essaye de briser ces préjugés, d'aller les voir. Et en fait, on se rend compte que les préjugés ne sont pas fondés. Et que quand on dialogue avec des inconnus, en fait, tout simplement le dialogue, c'est un moyen de rompre les préjugés, et c'est ce que j'essaye de montrer à travers mon projet Humans of Paris.
Alors des préjugés sur les Parisiens, il y en a. Des préjugés sur les Français, on pense qu'il y en a pas mal aussi. Est-ce que tu te verrais faire ce projet dans une autre ville française, par exemple?
Alors, Paris, c'est une ville c'est une ville richissime d'un point de vue culturel, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue du sport, dans tous les domaines. Et j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup encore à faire pour Paris. Et donc effectivement, c'est quelque chose aujourd'hui de complexe que d'exporter mon projet dans la France tout entière. Mais pourtant, comme je le vois petit à petit, il y a des partenariats qui se créent avec mon projet, notamment avec la région Île-de-France. Et donc avec la région Île-de-France qui ne comprend pas uniquement Paris, mais plusieurs villes, toutes les villes de la région Île-de-France. Donc je pense qu'à cet effet, j'irai voir les habitants des villes de la région d'Île-de-France pour pouvoir satisfaire ce partenariat. Donc ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que lorsque j'ai créé ça il y a 3 ans et demi, j'allais jamais imaginer que petit à petit ça allait se développer, entre guillemets, autant, avoir autant d'opportunités. Et donc c'est une chance aujourd'hui. Et petit à petit, je commence les partenariats avec des institutions, avec la région Île-de-France notamment. Et donc c'est quelque chose d'intéressant et toutes ces opportunités aboutiront, je l'espère.
D'accord. Alors, en parlant de partenariat, Brandon Staunton, il a fait un partenariat l'année dernière avec les Nations Unies et il est allé voyager dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Il a recueilli pas mal de témoignages, notamment de réfugiés, pour un peu changer la narrative qu'on avait autour des réfugiés, justement. Est-ce que toi, ça te dirait peut-être dans quelques années, parce que là, j'imagine que c'est encore un petit peu trop tôt, de faire le projet, de voyager, en fait, avec ton projet?
Alors, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Moi, j'ai l'occasion de voyager et même en voyage, il m'arrive de prendre en portrait des inconnus, d'avoir leurs histoires pour effectivement voir les mentalités des gens un peu partout. Donc c'est un point qui est intéressant. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que je suis étudiant en droit et donc je dois rester à Paris pour mes études. Et je ne suis pas... On parlait de Brandon Staunton qui est le fondateur du Man of New York. Je tenais à le préciser parce que je ne sais pas si ça a été dit. Et donc c'est vrai que lui, c'est son métier à temps plein, alors que moi, j'essaye de concilier mes études et Humans of Paris. Donc bien sûr, pour répondre à votre question, oui, j'aimerais voyager avec mon projet. J'aimerais avoir le temps pour le faire, mais voilà.
Et les premières pages de votre livre sont consultables sur le site internet humansof.paris. C'est bien ça?
Oui.
Merci Marco Hazan d'avoir été avec nous. Et il est... Vous voulez rajouter quelque chose?
Juste,
oui, bien sûr.
Allez. Mais juste rajouter quelque chose à propos de mon livre.
Oui.
Il a été préfacé par Yann Arthus Bertrand. Donc c'est un soutien qui m'a vraiment ému à mon âge. Enfin, je viens d'avoir 19 ans hier. Et donc je trouvais ça intéressant d'avoir son soutien parce que lui et moi se concentrons sur l'humain et essayons de partager ses valeurs humaines. Donc je vous remercie.
Merci
à vous.
Beaucoup,
et merci
Marco.
À tous.
Merci d'avoir merci. Été avec nous. Et il est 18h11 et Alexandre nous a rejoint. Alors aujourd'hui, Alexandre, tu vas nous parler d'expériences musicales un peu particulières.
Exactement. Fermez les yeux, imaginez. Châtelet, lundi matin, 8h. Vous êtes dans le métro, au croisement de la 1 et de la 4. Et là... Vous allez me dire, c'est joli, c'est sympa, mais après tout, ce n'est qu'un artiste dans le métro. Et pourtant, non, vous venez d'écouter un virtuose. Joshua Bell, son nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit de l'un des violonistes les plus talentueux de sa génération, et dans cette expérience, Bell a joué pendant 3 quarts d'heure à la station de métro L'Enfant Plaza à Washington, et n'a récolté que 32$. Alors qu'il faut savoir qu'il a joué des morceaux d'une grande complexité, avec un Stradivarius célèbre de 1713, d'une valeur de près de 3,5 millions de dollars, et qu'il a fait ce même spectacle au théâtre de Boston à guichet fermé à 100$ la place. Le journaliste, à l'issue de cette expérience, a posé cette question des plus ouvertes. Dans un environnement ordinaire, à une heure inappropriée, sommes-nous capables de percevoir la beauté, de nous arrêter pour l'apprécier, de reconnaître le talent dans un contexte inattendu ?
On parle donc de la musique dans la vie de tous les jours, c'est bien ça ?
C'est bien ça. Bon, là j'ai parlé d'expérience sociale, alors maintenant on va parler de musique contemporaine. C'est un courant musical assez spécial qui veut briser les codes et normes de notre société et de 433. 433, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est ça. Non, votre poste de radio marche bien, il n'y a aucun problème technique de notre côté, et vous venez bien d'écouter 433 de John Cage, un compositeur contemporain du XXe siècle. Cette œuvre, composée dans les années 50, est constituée de 4 minutes et 33 secondes de silence ininterrompu, 4 minutes et 33 secondes, durant lesquelles tous les musiciens de l'orchestre ne jouent aucune note, malgré les mouvements du chef.
Mais c'est quoi l'intérêt de faire une musique sans musique, justement ?
Eh bien, en fait, Cage est ce qu'on appelle un musicien expérimental et minimaliste. Et il s'est aperçu, après de nombreuses expériences, qu'il était impossible tout simplement de ne rien entendre. Du coup, le compositeur a décidé d'intégrer ce qu'il appelait les sons de la nature à ses pièces, et avec 433, il a atteint le paroxysme de cet art. Puisque son but est de prêter attention à tous les bruits qui, imperceptibles au premier abord, perturbent de manière imprévisible un concert.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, le but est de nous interpeller et nous interroger, c'est bien ça ?
Exactement. Maintenant, entre une performance prodigieuse passée inaperçue et une autre plus silencieuse ovationnée, au final, le but de ces deux œuvres sont, si on y réfléchit bien, les mêmes. Et oui, le plus important en musique, c'est notre perception, l'impression qu'on en a et surtout l'importance qu'on lui accorde. Maintenant, question, est-ce qu'il existe une équation qui évalue notre sensibilité à un son plutôt qu'un autre ? Je vous laisse y réfléchir.
Et pour continuer tout en musique, nous revenons tout de suite après ce titre de Daughter.
Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong.
Et c'était Youth, interprété par The Daughter.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Il est 18h19 sur la matinale de Radio Paris 7. On dit souvent que les stages sont des emplois déguisés, mais ils peuvent être très utiles. Alors, à quoi ça sert un stage et comment le dénicher? Mathilde a enquêté pour nous.
Le stage est un bon moyen pour un étudiant d'acquérir de l'expérience professionnelle et de faciliter son insertion dans la vie active. Amandine Rodriguez est conseillère et gestionnaire stage au SAWAP, service d'aide à l'orientation et à l'insertion professionnelle de l'Université Paris 7 Diderot. Elle nous explique en quoi la recherche de stage est différente d'une recherche d'emploi.
Quand on recherche un stage, on vient pour transformer les connaissances acquises à l'université en compétences professionnelles. Alors que quand on est en emploi, en recherche d'un emploi, on a des compétences que l'on vient donner à une entreprise qui en a besoin.
Pour aider les étudiants dans cette recherche, le SAWAP propose une trentaine d'ateliers par semestre. En groupe de 8 à 10 personnes, chaque participant doit se poser deux questions fondamentales.
Quel est son projet professionnel et pourquoi il a envie de faire ce stage? Quelle est la problématique scientifique sur laquelle il voudrait faire son stage? Donc qu'il puisse identifier ces deux axes, sa problématique et son projet professionnel, pour aller vers une bonne recherche de stage. Et après, on dit aux étudiants d'établir un profil, quel est le type d'organisme il aurait envie, dans lequel il aurait envie de faire son stage. Et ensuite, on voit toute la méthode donc, qui passe par la rédaction du CV, de la lettre de motivation, jusqu'à l'entretien.
Un petit temps de réflexion est ensuite nécessaire.
Donc là, les étudiants sont en train de réfléchir sur les questions donc du projet professionnel et de la réflexion de la problématique. Donc il y a des discussions qui commencent à débuter entre eux. La réflexion n'est pas simple parce que c'est des questions qui doivent être des questions sur soi. Et donc il y a des échanges qui sont en train de se faire entre eux.
Dora, 25 ans, en master d'histoire et civilisation comparée, partage sa réflexion.
Du coup, ben, moi, ma problématique, comment mettre en pratique les connaissances que j'ai, qui sont très théoriques, et justement les appliquer dans un milieu professionnel. Disons, ce qui me plairait, ce serait d'analyser et éventuellement de résoudre des problèmes qui sont soit d'ordre sociaux ou culturels. Et comme projet professionnel, j'en ai pas vraiment très défini parce que, avec ce que j'ai fait, je pense qu'il faut pas trop que je me ferme pour l'instant.
D'accord. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est très, très, très vague.
Être précis dans ses attentes, c'est le meilleur moyen pour trouver non un stage, mais le bon stage. Et pour cela, il faut savoir gérer et organiser sa recherche.
Donc la méthode, comme on l'a dit, en numéro 1, vous établissez du coup votre profil. Quels sont vos critères pour aller trouver des organismes potentiels donc, d'accueil qui vont donc vous intéresser pour votre stage. Ensuite, comment vous allez contacter ces organismes d'accueil ? Parce que vous allez élaborer en fait vos outils de communication. Pour dire, voilà, je cherche un stage. Vous envoyez quoi ? Oui ? CV et lettre de motivation. C'est comme ça que vous allez les contacter. Vous êtes chef de projet, il faut que vous arriviez à gérer votre projet. Donc ça vous demande d'être organisé. Parce que, vous allez voir, c'est quand même un travail qui est assez important. C'est pour ça qu'on appelle ça du pilotage.
La dernière étape est la signature de la convention de stage par l'organisme d'accueil, l'étudiant, le professeur référent et le SAWAP.
Nous, on est en charge de contrôler et de vérifier que votre convention de stage a bien été établie et qu'il n'y a pas de problème juridique dessus. Parce que la législation sur les stages est assez forte, assez riche et vraiment très, très compliquée. Donc on est obligé de vérifier que tout est bon, qu'on ne vous laisse pas partir comme ça.
Retrouvez toute l'information sur la législation qui encadre les stages sur service-public-pro.fr.
La matinale de 19h.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, Mathilde m'a un tant soit peu rassurée. Il est 18h24 et nous continuons avec Marianne. Alors, Marianne a choisi aujourd'hui de nous parler d'étudiants étrangers et leur perception sur Paris. Marianne, merci d'être avec nous.
Bonjour. Paris. Paname, Lutèce, Babylone, la grande ville, ville lumière, ville aux 100 villages, la plus belle ville du monde, cité de l'amour, capitale de la mode, de la gastronomie, de l'art de vivre. Même nos fromages qui sentent, notre métro et notre sale temps participent à nos attraits. Alors comment ne pas s'attendre, à la longue, au syndrome de Paris ? Le syndrome de Paris est un trouble psychologique transitoire qui touche surtout les touristes asiatiques. Ceux-ci, en arrivant, se trouvent un peu déstabilisés par le fossé entre la réalité de la ville et l'image que l'on s'en fait dans leur pays. Paris n'est pas totalement lisse, ni forcément propre, et ses habitants ne partagent pas la formalité culturelle de l'Asie de l'Est. Les Français ont tendance à adopter un ton très informel et décontracté dans beaucoup plus de situations, et surtout quand il s'agit d'humour. Rien que le sarcasme, c'est très français. Min Sung et Chang Yang sont toutes deux venues de Corée du Sud, Lin, chinoise, et comme elle, étudiante à Paris depuis quelques mois.
Franchement, j'imaginais que Paris est une ville très propre et les bâtiments sont belles et comme ça, mais quand je suis arrivée à Paris, j'étais un peu surprise que dans la station de métro, ils sont très mal à cause de pipi.
En fait, avant d'arriver, il y avait beaucoup d'amis françaises qui m'ont dit à Paris, les métros sont hyper sales, dans la rue, il y a des crottes de chiens, etc. Mais à la fois, la raison pour laquelle j'ai commencé à apprendre le français, c'est à cause de l'image de la France, qui est le pays de beaux-arts, le pays d'art, le pays d'amour, etc. Et en fait, quand je suis arrivée en France, je me suis rendu compte que oui, c'était certes le pays la ville d'art, mais à la fois, je croyais que c'était oui, mes amis avaient raison parce que c'était pas si propre que la Corée.
Outre le choc chez certaines de ne pas avoir le Wi-Fi gratuit dans le métro, elles ont effectivement été un peu surprises de découvrir la réalité de Paris en tant que capitale où des êtres humains vivent, mangent, dorment, jurent et font pipi. Il semblerait que le syndrome de Paris touche nettement moins les étudiants étrangers francophones. Parce qu'ils étudient la langue, ils tendent à se pencher plus sur la réalité de la culture et de la ville, voire à poser des questions aux Parisiens avant de faire le déplacement.
Généralement, les Coréens imaginent que Paris est une ville romantique, surtout les gens et les bâtiments ou des musées comme ça.
Ça dépend. En Chine, il y a des gens qui trouvent que Paris est parfait. Il y a des choses romantiques et la ville pour l'amour. Mm. Mais parce que moi, je suis étudiante de français, donc j'ai plus d'informations sur la ville.
Malgré un choc occasionnel face aux égouts et aux toilettes publiques, ce sont ces regards neufs qui portent sur Paris les regards les plus bienveillants et qui trouveront les mots les plus touchants pour en parler. Je laisse le mot de la fin à Lynn et Minsoon qui nous donnent le compliment le plus joli et sincère qui puisse être fait à Paris.
Donc la ville de Paris, c'est un endroit où on peut être libre, voilà, vraiment libre des regards des autres.
Je pense que Paris est une ville de l'amour parce que moi, je vois des gens qui s'embrassent tous les jours, n'importe où. Il y a des scènes très magnifiques qui me font penser à des amoureux.
Merci Marianne pour cette chronique et nous terminons cette émission. Merci à tous les participants autour de cette table ainsi qu'à Thibaut et Tiffany à la régie sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Il est 18h28 et on se retrouve bientôt dans la matinale de Radio Paris 7. Merci à tous, roulez prudemment et au revoir.